Bonjour, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse en direct ou en podcast. Et ce matin, je vous propose de nous intéresser à la mythologie grecque qui peut nous permettre de mieux éclairer notre vie quotidienne. Des amours de Zeus qui questionnent les relations entre sexe et pouvoir, au talon d'Achille, métaphore de nos fragilités humaines, en passant par les Argonautes qui nous font réfléchir sur ce que nous désirons vraiment. Nous recevons ce matin le philosophe Charles Pépin et le dessinateur Jules qui nous racontent joyeusement ces dieux et demi-dieux qui nous ressemblent beaucoup. Vous pouvez leur poser vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
Vénus de la cénéphilie qui revient toute bronzée du Festival des Arcs. Quoi de neuf dans votre vie des films, ou plutôt cette semaine, votre vie des séries?
Ben oui, j'ai pensé à Chronos, je me suis dit tiens, les séries ça nous tue le temps, donc je vais parler de Westworld.
À tout à l'heure, bonjour Eric Libiou, le Poséidon du Finistère, rédacteur en chef à l'Express. Quoi de neuf dans votre petite mythologie d'un objet du quotidien?
Écoutez, je ne sais pas encore, j'hésite, mon corps balance entre plusieurs objets, donc je vais faire la balance.
Allez, à tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébi.
Bonjour Jules.
Bonjour.
Et Charles Pépin, vous publiez 50 nuances de grec, encyclopédie des mythes et des mythologies, dans la lignée de votre fameuse planète des sages. Jules, ancien élève de l'école normale supérieure, né en 1974, et Charles Pépin, agrégé de philosophie, né en 1973, une très belle année. Comment il y a des gens très talentueux qui sont nés cette année-là. Comment la mythologie grecque peut-elle nous éclairer, peut-elle éclairer notre vie quotidienne, Charles Pépin?
Eh bien, on va prendre un exemple directement pour commencer. Vous connaissez l'histoire de Jason et les Argonautes. Mmh. Alors, quand on la lit, on découvre que quelqu'un part à la recherche de la toison d'or. Et finalement, on comprend à la fin de son histoire que il ne savait pas ce qu'il recherchait, parce qu'au fond, la toison d'or n'était qu'un prétexte, elle n'était qu'un leurre, et elle cachait le véritable objet de son désir. Et si on comprend un peu la sagesse de ce mythe, alors on découvre finalement l'idée même qu'il y a un objet inconscient de notre désir, et on peut finalement mieux vivre le fait d'être tout le temps en train de chercher quelque chose sans vraiment savoir ce que c'est. Vous voyez, il y a une sorte de sagesse éternelle comme ça, qui est parfois directe, parfois indirecte, et qui peut effectivement nous aider, parce qu'elle nous montre que ce à quoi on se confronte, au fond, est éternel, d'une certaine manière.
Jules.
Oui, pour reprendre cet exemple, moi, la façon dont je le traite, parce que là, Charles a une espèce de réflexion philosophique sur la question, mais moi, je le rapporte à des choses de notre vie quotidienne et de notre présent, de notre société de consommation judéo-chrétienne. Et la toison d'or, dans 50 nuances de grec, c'est les Argonautes, ils la recherchent, parce qu'ils disent, si à 50 ans, vous n'avez pas une toison d'or, c'est que vous avez raté votre vie. C'est ça, c'est ces objets, justement, matériels, qui cachent peut-être autre chose d'une fêlure intime, d'un problème, ces espèces de consumérisme. Et de la même façon, on peut trouver, justement, dans ce panthéon grec, avec ces histoires, ces interactions avec les héros, avec les demi-dieux, finalement, toutes les passions résumées, condensées et intensifiées par la mythologie grecque. Et ça nous aide à voir. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est un petit peu en rase-motte, ras des pâquerettes dans notre vie quotidienne. Mais en fait, on est complètement porteur de ce grand souffle grec, de cette grande liberté. Et on ne s'en rend pas forcément compte. Un des exemples les plus frappants de l'actualité, c'est évidemment le harcèlement sexuel. On parle que de ça, justement, de cette espèce de prédation de l'homme envers la femme. Ça, c'est pas très judéo-chrétien non plus. Évidemment, ça prend ses racines dans ce monde gréco-latin. Ben, Zeus, Apollon, Hermès, Pan, Poséidon, c'est tous des harceleurs en chef. Ils auraient tous un hashtag aujourd'hui. Et donc, dans la BD, il y a Zeus qui doit payer les myriades de pensions alimentaires de toutes les femmes qu'il a engrossées. Et il y a Pan qui se retrouve en procès à cause de ses liens avec Dionysos la Saumure, qui est le proxénète du Sofitel Mykonos et du Carlton de Delphes. Ça nous aide à comprendre les choses différemment.
Question de Léonard, notre stagiaire de 3e avec nous cette semaine.
Alors, quel a été l'élément déclencheur qui a provoqué chez vous un intérêt particulier pour la mythologie grecque?
Jules.
En fait, je pense que c'est quelque chose, c'est un terreau dans lequel on est. Si on interroge des petits-enfants en maternelle, ils sont déjà passionnés par ça. Il y a des personnages extraordinaires. Un Pégase, un Icare, un Minotaure, ces demi-monstres, c'est mieux que n'importe quel personnage de conte. Et ensuite, ça nous accompagne tout du long. Au début, on est intéressé par Pégase quand on a 5 ans. Et puis après, un petit peu plus tard, quand on commence à vraiment avoir des problèmes, on s'intéresse tout d'un coup à Oedipe.
Il y a des figures qui concernent plus ou moins les uns ou les autres. Moi, dans mon cas, je suis tombé dedans par fascination pour la figure de Sisyphe. Sisyphe, c'est le mec qui se croit plus malin que tout le monde, il se croit plus fort, il est arrogant, il pense qu'il n'y a aucune limite à sa puissance. C'est ce qu'on appelle en grec l'oubris, c'est l'arrogance. Et puis il va le payer cher. il va payer cher le fait de s'être pris pour un dieu, finalement, de ne pas avoir accepté les limites de l'humanité. Vous savez, il y a une phrase importante dans la sagesse grecque, c'est « connais-toi toi-même ». En fait, ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin des autres pour te connaître, ça veut dire « connais-toi toi-même comme tu es, avec tes limites ». Ben moi, par exemple, dans mon cas, j'ai eu besoin, la vie m'a appris à découvrir les limites de ma puissance et à les accepter, et c'est un petit peu grâce à la mythologie. Il y a un gain en sagesse assez rapidement dès qu'on lit ça.
Léonard, toi, ça t'intéresse, la mythologie grecque ?
Oui, un petit peu.
Pas tant que ça, visiblement.
Bon, on va essayer de t'y intéresser ce matin. Jules, avec ces 50 nuances de grec, j'imagine que vous êtes bien amusé à transposer donc ces divinités de l'Olympe dans des situations de la vie quotidienne, mais les puristes, les spécialistes de la mythologie se pinceront peut-être le nez? Ou est-ce que vous avez vérifié toutes vos sources
Moi, j'ai expérimenté ça justement avec Charles, déjà dans La Planète des Sages et dans Platon Lagaffe, où évidemment, on mettait en scène Kierkegaard, Wittgenstein, dans des situations complètement absurdes. Wittgenstein qui faisait un Rubik's Cube à toute vitesse, puis qui le cassait, puis qui mangeait les morceaux. Bon, évidemment, un spécialiste de cette pensée allemande vraiment forte aurait pu dire, oui, on est un peu loin de Wittgenstein. Mais au contraire, justement, c'est des fenêtres ouvertes. Une façon de réinterpréter des choses vers le mythe, vers, je dirais, cette grande généalogie. Et puis, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde. On est quand même dans de la chanson. Dans l'album, il y a The Voice Olympe, et puis un des groupes phares, c'est Amadou et Homer qui chantent ça. Et avant tout, la mythologie, c'est cette espèce de grande chanson d'un barde aveugle qui nous a été transmise. Et donc, finalement, il n'y a pas de vrai puriste de la mythologie. Il y a sans arrêt une réinterprétation. Finalement, c'est assez talmudique.
De toute façon... Moi, j'ai cette conception-là de la philosophie. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'objectivité. Ce qui compte, c'est les lectures qu'on en fait, c'est l'angle subjectif et existentiel qu'on prend. Vous avez, par exemple, la figure d'Héraclès, Hercule. En fait, son nom, ça veut dire « grâce à Héra ». Et on comprend que finalement, il est devenu fort, il a développé ses talents en voulant lutter contre tous les pièges que lui tendait Héra pour se venger du fait que Zeus l'avait trompé avec celle qui est donc la mère d'Héraclès. Et alors qu'est-ce qu'on comprend ? C'est que finalement, il est devenu fort grâce à celle qui lui voulait du mal. Et ça, c'est une sagesse de vie incroyable. Hein. Parfois, il faut comprendre que ceux qui nous veulent du mal nous font du bien sans le vouloir, parce qu'ils nous aident à nous développer. Eh bien, ça, est-ce que c'est directement dans le mythe ? Je suis pas sûr. Est-ce que c'est une interprétation ? Oui. Et cette interprétation, il faut la soumettre et l'offrir à ce grand débat qui court depuis des milliers d'années. Et voilà. Et
puis à la fin, il se retrouve à faire la queue à Acropole Emploi parce qu'il a même il va pas trouver 12 travaux, même un seul, il n'arrive pas à en trouver.
Guillaume Todisino.
Non, mais ce que vous dites de l'héroïsme qui se construit sur la souffrance, en fait, ça donne après énormément de héros, ben justement de super héros. C'est-à-dire au départ, il y a une douleur ou une frustration ou un méchant ou une méchante qui vous coupe un morceau de corps et du coup, vous mettez une cape et tout se transforme.
Mais ce qui est incroyable, en fait, et j'avoue que moi, je n'étais pas un spécialiste de mythologie avant de me plonger dans ce travail en y étant invité par Jules, c'est qu'en fait, il y a tout dans un ou deux livres, enfin dans Homer, dans Hésiode, il y a tout. Et par exemple, moi, en tant que philosophe, je pensais, on m'avait appris à la fac, que la philosophie était née d'une coupure avec le mythe, d'un arrachement à la pensée mythologique. En fait, c'est faux. Elle n'en est que le prolongement. Tout Platon est déjà chez Homère, quelque part. Et c'est ça qu'on a essayé de faire partager dans cet album, 50 nuances de grec. C'est pourquoi c'est aussi un album de philosophie, qui pose des grandes questions philosophiques. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la passion? Qu'est-ce que la jalousie? Qu'est-ce que le désir? On les avait posées auparavant dans La Planète des Sages. Maintenant, on les pose dans 50 nuances de grec par un autre chemin.
Allez, nous attendons vos questions et réactions au 01 45 24 7000. Alexia Rivière, Claire Destacan, Antoine Vandeville et Théo Denmat m'ont aidé à préparer cette émission. Et c'est réalisé, hélas pour la dernière fois, par Eric Lenné. The taxman's taken all my dough and left me in my stately home. Blazing on a sunny afternoon, and I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying. So pleasantly live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon.
Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Well, give me two good reasons why. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. Ah, oh, save me, save me, save me from this squeeze. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime.
Les Kings, Sunny Afternoon.
Oh, vous m'entendez là? Vous êtes dur d'oreille, c'est ça?
Grand bien vous fasse.
Les dieux de l'Olympe sont mystérieux et leurs mobiles sont singuliers.
Je n'y comprends rien.
Sur France Inter.
10h20, comment la mythologie grecque nous permet-elle d'éclairer notre vie? Nos préoccupations quotidiennes, c'est notre thème ce matin avec le dessinateur Jules et le philosophe Charles Pépin qui publie 50 nuances de grec. Et nous recevons Frédéric Sigrist, bonjour.
Bonjour.
L'un des humoristes de la bande originale de Nagui et qui a écrit un spectacle intitulé Le Panthéon de Fred.
C'est fait. Comme nous le craignons, Acrisios, le roi d'Argos, a abandonné Danaé et son enfant sur les flots.
Il sera sévèrement puni.
Il a fait bâtir de nombreux temples grandioses qu'il t'a consacrés, grand Zeus, père des dieux.
Cent actions généreuses ne rachèteront pas un meurtre qui m'atteint. Un millier de temples, de statues, de sanctuaires qu'on les consacre à moi ou à toi, Héra, ma femme. Ou à Thétis, ravissante déesse de la mer. Ou à toi, Athéna, si sage, énergique et vaillante. Ou à Aphrodite, déesse de l'amour. Ne sont rien.
Est-ce que cela compte, la mort d'une jeune femme et de son enfant?
Mais c'est sa fille! Acrisios sera sévèrement châtié. Et son peuple avec lui. Écoute, Poséidon. Je t'ordonne de déchaîner les vents et les flots. Détruis Argos. Laisse sortir le Kraken. Il faut que le royaume d'Acrisios soit détruit.
Tes ordres seront exécutés.
Le choc des titans en 1981, Charles Pépin, pas commode, hein, Zeus, hein, dieu suprême dans la mythologie grecque. Zeus est son indispensable accessoire de pouvoir, du pouvoir, le...
ouais.
La foudre.
Et ouais, la foudre, et puis on voit bien... Ça aussi, ça nous est déjà dit dans la mythologie grecque que ce qui fait le pouvoir, c'est pas nécessairement la puissance objective fondée. Ça peut être aussi des attributs symboliques. Finalement, il suffit parfois d'avoir l'attribut du pouvoir pour avoir le pouvoir.
Frédéric Sigrist, dans votre spectacle, vous revenez sur une idée reçue. Bah, c'est pas Zeus qui crée les hommes, hein, ce sont les titans, Épiméthée et Prométhée.
Exactement. Prométhée, en grec, ça signifie celui qui réfléchit avant, tandis qu'Épiméthée, c'est celui qui réfléchit après. Hein, ce qui était une manière de dire qu'il y en avait un des deux qui aurait pu être animateur sur Énergie 12. Et du coup, quand ils se sont partagés la création, conception comme ça. Il y avait donc cette esthète Prométhée qui voyait l'homme comme vraiment une sorte d'œuvre d'art. Et puis Prométhée qui était le mec qui rajoutait des poils. Voilà, il rajoutait les griffes sur le lion, voilà, les crocs, la crinière, etc. Et quand est arrivé le moment de faire les hommes, il n'y avait plus rien dans la boîte. Donc Prométhée a décidé de faire de l'homme une créature qui se tient debout, le regard tourné vers le ciel, alors que les animaux, eux, sont à quatre pattes, le regard tourné vers le sol. Et il est tombé amoureux de sa création, jusqu'à aller voler le feu aux dieux pour le donner aux hommes, pour qu'ils puissent créer une civilisation, ce qui n'a pas plu du tout à Zeus.
Charles Pépin, nous devons beaucoup à Prométhée qui n'a pas fait que piquer le feu aux dieux. Pourquoi est-ce qu'il nous ressemble tant, Prométhée?
Et parce qu'il ose prendre sa place. Et c'est ça, l'humanité, au fond. Et c'est ça aussi que la mythologie grecque nous dit. C'est qu'il faut parfois encourir la sanction, il faut parfois prendre sa place pour exister. Parce que finalement, en volant le feu aux dieux, Prométhée nous crée comme nous sommes, parce que Zeus va le punir et nous punir. Nous allons devenir mortels, alors qu'avant c'était l'âge d'or de l'immortalité. Et surtout, la punition, ça va être la femme. Pandore qui va nous être envoyée, après avoir été créée par Héphaïstos. Et finalement, on va donc découvrir, grâce à cette punition, la mortalité, donc le bonheur de vivre, la femme, donc le bonheur de la sexualité, et de l'enfantement. Et finalement, c'est ainsi que nous naissons à l'humanité, par ce défi prométhéen de voler aux dieux le feu. Ce qui veut quand même dire que nous sommes, comme vous l'avez très bien dit, les enfants davantage de Prométhée que de Zeus.
Que de Zeus. Et d'ailleurs, Zeus, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas devenu le roi des dieux par ses qualités, mais juste parce que c'était le dernier enfant à ne pas s'être fait dévorer par Cronos. C'est vraiment le leader du contexte. Parce qu'ensuite, quand il y a eu la titanomachie, cette guerre qui a opposé les dieux, la deuxième génération, aux titans, c'est les cyclopes qui ont forgé la foudre, c'est-à-dire son attribut qui ont fait de lui le chef. Mais il y a une sorte d'énorme arnaque de tous ses collaborateurs. Et pour constituer ce gouvernement presque inique et divin qui règne sur l'Olympe, où chacun s'est partagé entre hommes les fonctions régaliennes importantes. Moi, j'ai le ciel, toi, t'as les enfers, toi, t'as les océans. Et les femmes, toi, tu vas être déesse du mariage, toi, tu vas être déesse du foyer.
Il y a quand même aussi des belles attributions pour les femmes.
Il y a la déesse de la chasse, quand même.
Ce qu'il faut quand même dire aussi,
oui,
qui est très
important. Souvent, c'est des femmes vierges.
Oui, alors c'est vrai que c'est le cas d'Athéna. Si elle n'était pas vierge, ce serait la femme idéale, parfaite, parce qu'elle est de tous les dieux le plus complet. Elle sait faire plein de choses. Déesse de la culture, des moissons, des arts, des artisans. Mais quand même, ce qu'il faut dire sur cette figure de Zeus, c'est qu'il n'est pas tout puissant du tout. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que par exemple, à chaque fois qu'il a une maîtresse, il couche avec elle aussi pour s'emparer d'une vertu qui lui manque et qu'elle possède. C'est là qu'on voit d'ailleurs, de façon beaucoup plus lumineuse que dans la morale chrétienne, que dans la sexualité, dans la séduction, il y a toujours une logique de pouvoir. Et si on veut s'en extraire, c'est-à-dire se spiritualiser, se civiliser, s'arracher à ça, à cette violence au fond, il faut d'abord le reconnaître. Eh bien, la mythologie grecque nous aide à voir en face le tragique des choses, et notamment le fait que, eh bien, séduire, c'est toujours en effet prendre le pouvoir. C'est comme ça.
Jules.
Et alors, il n'y a pas que des personnages du Panthéon et des dieux ou des demi-dieux. Il y a aussi des personnages qui sont à la limite du héros, qui sont quasi historiques d'ailleurs, mais qui nous racontent énormément sur nous. Je pense à Dédale. Moi, c'est une de mes figures préférées de la mythologie. Dédale, c'est le père de Léonard de Vinci et de Gaston Lagaffe, en gros, parce qu'il passe sa vie à faire les plus grandes inventions, les plus sensationnelles, et ensuite à essayer de réparer les gaffes qui s'en sont ensuivies. Et du coup, moi, là, le personnage dans 50 nuances de grec, Dédale, il est embêté parce qu'il a construit le labyrinthe, donc pour expier le fait d'avoir permis à la femme du roi Minos de se reproduire avec un taureau. Il avait inventé un petit système comme ça où elle se mettait dans une boîte en forme de taureau et puis elle était enfantée comme ça. Et donc lui, il se retrouve avec son labyrinthe et puis le type de l'inspection dit « Désolé, on ne peut pas vous laisser ouvrir votre labyrinthe, monsieur Dédale, parce qu'il n'est pas aux normes handicapé. » Bon. Et donc, il y a cette espèce de société de la norme, du contrôle face à la grande folie grecque et qui raconte un petit peu, nous, ces deux tendances, ces deux tiraillements qu'on peut avoir entre la volonté d'être libre, de repousser les limites, et puis cette espèce d'ordre social qu'on a de société assez policée.
Et le mécénat, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de subvention de la science à ce moment-là. Donc en fait, Dédale est obligé d'accepter absolument toutes les demandes du roi concernant le labyrinthe, puis ensuite concernant le taureau avec lequel on veut avoir des rapports sexuels. Et lui, c'est pour financer ses créations qu'il accepte de faire tout ça. Et il se retrouve puni juste parce qu'il a fait ce qu'on lui a demandé, en fait.
Charles Pépin. Ouais, et c'est très intéressant dans cette figure, au-delà du fait que lui, il a existé, c'est presque, de toutes les figures, celle qui a le plus existé historiquement, c'est que ça nous montre bien la situation dans laquelle on est aujourd'hui par rapport à la folie de la technologie et de la technique. Parce qu'on croit toujours que par la technique, on va réussir à régler les problèmes que la technique a auparavant créés. Et en fait, on s'en sort pas. Là, on pense qu'on va détruire la planète, mais c'est pas grave, on ira vivre sur Mars. Ce schéma mental, il est déjà raconté dans l'histoire de Dédale, puisque je vous rappelle qu'après, il est enfermé par punition dans le labyrinthe qu'il a construit, et il pense encore qu'il va en sortir en créant des ailes de cire qui vont tuer son fils, et ainsi de suite. Et quand on lit cette histoire de Dédale, on est quand même mis en garde, et quelque chose comme une invitation à la responsabilité s'en dégage, si on veut bien l'avoir. Peut-être qu'il faut arrêter de croire que la technique nous permettra de nous sauver de la technique elle-même.
Éric Libio, vous avez lu 51 de grec.
Oui, je l'ai lu. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le travail de Jules et Charles Pépin, ce qu'ils font depuis quelques albums, c'est de dire que ce qui est sérieux n'est pas forcément intelligent et ce qui est drôle n'est pas forcément futile. Et c'est cette alliance entre le regard qu'ils portent sur cette mythologie. C'est vrai que la mythologie, alors, elle est, vous l'avez très bien dit, elle est aujourd'hui partout. Elle est notamment au cinéma, dans les super-héros. Hein, il y a une espèce de jeu de miroir. D'ailleurs, je sais pas si vous avez une réponse à ça. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, cette mode des super-héros est apparu depuis une quinzaine d'années? Je parle du cinéma plus parce que la science-fiction, on sait que Superman par exemple est apparu en 38 pour un peu lutter contre l'arrivée des nazis, mais pourquoi en cinéma cet imaginaire a été besoin d'être créé pour le public d'il y a une quinzaine d'années? Est-ce que ça correspond à quelque chose de particulier?
On écoutait un extrait tout à l'heure qui est un petit peu antérieur à ça. Hein. Je me rappelle le choc des Titans.
Oui, dans
il y avait ces
50,
trucs fantastiques.
60,
il y avait déjà une espèce de veine hollywoodienne, série B autour de la science-fiction. Mais de toute façon, je pense que dans ces créations populaires, on cherche. En fait, c'est exactement ce qu'on fait, mais version hollywoodienne. C'est-à-dire qu'on s'empare d'un patrimoine. C'est ce qu'a fait Walt Disney depuis toujours, d'un patrimoine de contes, de légendes européennes très anciennes ou mondiales maintenant. Et puis on en fait quelque chose de pop culture à la sauce américaine. C'est ce que font les super-héros. Et donc ils se sont emparés évidemment de la mythologie grecque, mais aussi bien de la mythologie nordique avec Thor, Odin. En fait, ils prennent, c'est une énorme machine à recycler pour du grand spectacle. Et nous, c'est ce qu'on fait d'une certaine façon avec Charles. C'est-à-dire qu'on recycle aussi ces choses qui nous appartiennent comme un patrimoine commun de grande culture, qui est notre terreau, qui est parfois justement dans l'angle aveugle, de notre culture, mais on en est nourri, c'est notre sucre, c'est notre sang. Et puis on leur refait sortir, on dit voilà ce qu'on a dans nos veines. Ça peut être la philosophie, ça peut être les personnages historiques, et c'est aujourd'hui la mythologie.
Frédéric Segrist, grand spécialiste de pop culture.
Mais la filiation, de toute façon, entre la mythologie et les super-héros est encore plus forte chez DC Comics, les créateurs de Superman, parce que Superman, c'est vraiment la figure de l'Apollon. Batman, dans sa Batcave, c'est la figure d'Hadès. Wonder Woman, c'est Athéna. Flash, il amène carrément les ailettes d'Hermès. Aquaman, Neptune. Donc en fait, c'est le panthéon grec transposé littéralement sous forme de fascicules, comic book. Donc en fait, il y a vraiment une sorte de réinterprétation. Les noms ont changé, mais les figures sont toujours les mêmes.
Charles Pépin.
Oui, d'ailleurs, il y a quand même une énigme. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque pour que tout arrive, quoi? On ne sait pas si Homer a existé, mais même s'il a existé, c'est un génie absolu. S'il n'a pas existé, il y a eu quelque chose comme un terreau incroyable de notre civilisation. Et c'est ce qu'on appelle un peu le miracle grec, et c'est assez énigmatique.
Bonjour Catherine Clément.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission, vous êtes philosophe et romancière, marraine de la collection Mythologie éditée par Le Monde, auteur d'un dictionnaire amoureux des dieux et des déesses. En quoi, Catherine Clément, la mythologie et les divinités grecques nous aident à éclairer, à comprendre nos préoccupations quotidiennes?
Préoccupations quotidiennes, ça ne va pas de soi. Mais quand même, il y a des choses intéressantes dans la société des dieux. D'abord, ils ont une loi morale. Ils ont une loi morale, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas immortels définitivement. Et il y a une grande faute qu'un dieu ne doit pas commettre, sinon, s'il commet cette faute, il sera privé de nourriture et de... Il sera placardisé, il devient une espèce d'écume bon à rien. C'est s'il se parjure en ayant fait le grand serment par le Styx. Et le grand serment par le Styx, les dieux y sont soumis. Et s'ils se parjurent, c'est fini, ils sont plus dieux, en tout cas pour une dizaine d'années. Donc c'est quand même intéressant de voir que même une projection mythologique comme ça contient une sorte de loi morale absolue que les dieux ne doivent pas franchir. Ça veut dire que pour nous aussi quand même, il y a des lois morales absolues qu'on ne doit pas franchir, qui varient selon les sociétés, mais il y en a toujours une. Par ailleurs, il y a des choses intéressantes dans ce que font les dieux en matière de procréation. On dirait qu'ils ont inventé tout ce qui nous arrive en ce moment. Alors, la procréation assistée depuis longtemps, c'est la pluie d'or qui dans laquelle Dieu va se transformer et qui féconde une femme, mais aussi la façon dont Zeus récupère Dionysos, qui est tout à fait sidérante. On l'a pas encore inventé. On n'a pas encore inventé les pères porteurs, mais ça désigne une direction. Zeus récupère le fœtus de sa maîtresse qui est en train de se consumer et le coud dans sa cuisse et donnera naissance à Dionysos quelques mois plus tard. Il fait de même avec Athéna d'ailleurs. Il accouche par la cuisse et il accouche par la tête. Il y a une inventivité tout à fait formidable. Mais on est en train d'entrer dedans. Et c'est vrai, nous devenons des dieux. Nous devenons des dieux tout doucement, mais nous devenons des dieux à coup sûr, avec tout de même une morale au-dessus de nos têtes.
Jules.
Oui, c'est quelque chose qu'on met en scène. D'ailleurs, j'ai beaucoup écouté les émissions de Catherine Clément, notamment cet été, alors que j'étais vraiment baigné dans la mythologie. C'était passionnant, la façon de raconter ça, justement, comme un feuilleton. Et puis, cette question de la procréation, nous, on le traite aussi, c'est la procréation mythologiquement assistée, effectivement, où Asclépios a une espèce de clinique avec pignon sur rue, et donc ils font naître des gens dans des coquillages, dans des bouts de laine, enterrés au fond de la terre. Et c'est-à-dire qu'il y a toutes les fantaisies possibles et qui, effectivement, comme dit Catherine Clément, ouvrent des pistes.
Frédéric Sigrist.
Et la parthénogénèse, c'est-à-dire c'est cette faculté de faire des enfants tout seul, c'est aussi, ça illustre aussi la différence de traitement entre hommes et femmes vue par les Grecs. Quand Héra accouche toute seule d'Héphaïstos, elle est censée l'avoir fait toute seule, l'enfant naît boiteux, difforme. Quand Zeus, un homme, accouche tout seul, il crée Athéna, la déesse parfaite sous toute couture.
Catherine Clément, sur de nombreux aspects, les dieux de la mythologie grecque nous ressemblent beaucoup, ne serait-ce que du point de vue des passions.
Oui, enfin, on peut quand même dire que c'est nous qui ressemblons aux dieux, peut-être, non?
Oui, si vous voulez, mais du point de vue des passions, il y a une interaction. Du point de vue des passions, il y a une interaction entre les divinités grecques et nous.
Les passions des dieux ont la particularité d'être extrêmement rapides. C'est de l'instantané. Hein, c'est du café instantané, c'est à peine éprouver que c'est digéré, déjà fini, enfin, et justement les procréations se font à toute allure, donc c'est la rapidité qui les anime, et on y va aussi à la rapidité. Donc là, de ce point de vue là il y a une réflexion à faire, mais peut-être pas sur des termes mortels. Vous voyez, c'est la rapidité qui compte, c'est la loi morale qui compte. C'est sinon les dieux ont le pouvoir de se transformer, mais comme nous il y a des transgenres dans tous les coins, donc on est en train d'arriver à ce statut, ça je maintiens. Notre imaginaire rejoint l'imaginaire pré-grec et indien. Faut pas l'oublier, l'indien.
Dans 50 nuances de grec, justement, on met en scène ce qui est la façon de rencontrer les gens aujourd'hui. C'est adopteungrec.com, qui est le site qui a été créé par Héros, justement, parce que le coup de se balader les fesses à l'air au-dessus d'une ville en lançant des petites flèches, comme ça marchait plus du tout à l'époque moderne. Donc voilà, il se recycle sur les sites de rencontres et ça marche très très bien.
Merci Catherine Clément d'être intervenue ce matin. Allez, il est temps de retrouver notre Diane Chasseresse, Guillemette Odissino et sa vie des films.
La vie des films, t'as été formidable, tu sais.
Allez, faut pas rester là, voyons,
Corneille. Faites surveiller la fricassée. Sur France Inter.
Ce qui compte, c'est que ça se soit bien terminé.
Tu sais où tu es?
Dans un rêve.
Bienvenue à Westworld. La seule limite, c'est votre imagination. Et jusqu'où vous voulez aller, cela ne dépend que de vous.
T'es pas réel.
As-tu déjà remis en question la nature de ta réalité?
Tout le monde vient satisfaire son vice. Je viens satisfaire le mien.
Tous ces plaisirs violents auront une fin violente.
Westworld.
Alors, Guillemette Odissino, cette semaine dans votre vie des films, ou plutôt des séries, Westworld diffusé sur ECS, pourquoi ce choix ce matin?
D'abord le choix d'une série, parce qu'on disait que la mythologie, c'est vraiment le premier feuilleton. Donc je pense que vraiment aujourd'hui, les séries sont notre mythologie quotidienne. Alors ce choix, parce que Westworld, alors d'abord je vous explique un peu le contexte, c'est un parc d'attractions gigantesque, un monde en soi, sur le thème de l'Ouest sauvage, j'ai bien dit sauvage, où les clients peuvent vivre comme au temps des pionniers américains. Mais alors pour rendre l'expérience encore plus immersive, pardon pour ce mot immersif, un peu sauvage aussi. Des humanoïdes peuplent le parc et donnent donc la réplique aux humains qui peuvent tout se permettre avec eux. Donc des humanoïdes créés par deux scientifiques, des humanoïdes vraiment à l'image de l'homme. Et vous verrez beaucoup trop à l'image de l'homme. Parce que quand, grâce à un bug, les hôtes, c'est-à-dire les androïdes, découvrent qu'ils ont été créés à notre image, ils se demandent si l'humanité est vraiment ce à quoi ils veulent aspirer. On les comprend. Dans Westworld, donc, des hommes croient qu'ils peuvent jouer aux dieux. Ils se croient inaccessibles, pouvant jouer sans fin avec leurs créatures. Ils sont deux créateurs à la manière d'Épiméthée et Prométhée. Alors, Prométhée est incarné par Anthony Hopkins. Hein. Ça aide pour rendre cette série assez divine. Pour réparer l'étourderie de son frère, Frédéric en parlait tout à l'heure, donc celui qui était imprévoyant, le titan Prométhée va donc voler le feu à Héphaïstos, c'est-à-dire le pouvoir de l'intelligence. Mais dans le mythe, ça on l'a pas dit tout à l'heure, heureusement quand même qu'il y a Hermès qui débarque, parce que Hermès, lui, y rajoute la pudeur et le sens de la morale. Mais là, dans ce parc, bah, il n'y a pas Hermès, donc le sens de la morale a disparu. Si ces apprentis sorciers sont donc dépourvus de morale, les androïdes, eux, en revanche, la découvrent. Et qui sont les deux androïdes en particulier qui découvrent la morale ou qui cherchent à la découvrir? Eh bien, dites donc, je vous le donne en mille. Deux femmes. Dolores, la blonde, destinée au fantasme de celles qui veulent la sauver, enfin, ou la violer, ça dépend. Et Maeve, une prostituée d'une intelligence loin d'être artificielle. Deux merveilleuses Pandores, on en parlait tout à l'heure, qui risquent bien de déverser tous les maux sur l'humanité de ce parc d'attractions. Voilà ce que dit, entre autres choses fascinantes, cette série. Ne tentez pas, messieurs, de créer la femme à votre image. Vous vous en repentirez.
La vie des films de Guillemet, ça me laisse sans voix. La vie des films de Guillemet Todisino, tous les vendredis.
C'est une série menaçante.
Dans Grand Bien Vous Fasse. Allez, nous attendons vos questions et réactions au 01 45 24 7000. Junior extra-lucide.
Je suis Ulysse, le vainqueur de Troie.
Mais qu'est-ce que vous voulez que ça nous foute?
Grand bien vous fasse.
Demande-moi ce que tu veux.
Bon, on va pas jouer à ça toute la nuit.
Je veux dormir.
Sur France Inter.
10h42, comment la mythologie grecque nous permet d'éclairer notre vie, nos préoccupations quotidiennes. C'est notre thème ce matin avec le dessinateur Jules et le philosophe Charles Pépin et avec l'humoriste Frédéric Sigrist.
Marguerite Yourcenar parle d'un langage que représente la mythologie grecque. Elle dit qu'elle représente, au même titre que l'algèbre, etc., le premier essai d'un langage universel. Et je trouve que c'est une très belle formule qui explique cette survie des mythes grecs, qui est vaut pour le théâtre, mais aussi pour l'opéra, pour toutes sortes de genres. Et pour la peinture.
L'helléniste Jacqueline de Romilly, en 2000 sur France Culture. Alors la mythologie grecque qui n'influence pas que la littérature et les arts, mais aussi nos vies. Tiens, Charles Pépin, pour vous, Dionysos, Bacchus pour les Romains, eh bien c'est la plus étrange des divinités. Dionysos, c'est la figure de l'altérité.
Ouais, c'est ça qui est beau, parce que vous savez, donc il est pas simplement le dieu du vin, de l'ivresse, de la folie. Il est aussi l'étranger, puisque il a été exilé loin. En étant puni, et puis il revient finalement chez lui, et sous les traits d'un étranger très troublant, puisqu'il danse avec des nymphes et des silènes, et bien ce qui est très intéressant, et ce qui est peut-être une leçon pour notre époque, c'est que les Grecs non seulement accueillent cet étranger, mais ils en font un dieu. C'est-à-dire qu'ils prennent l'autre et ils le mettent au milieu de leur civilisation et ils lui rendent un culte, alors que nous, on a plutôt tendance à parquer l'autre dans des sous-bois ou à les reconduire à la frontière. Et ça, c'est très fort, parce que ça veut dire aussi que cette civilisation qui est celle de l'équilibre, de la beauté, de la prudence, de la mesure, elle sait faire sa place à un dieu de l'excès et de la démesure. Comme si il y avait besoin de ces deux piliers pour fonder un monde, d'un côté de l'équilibre, de l'autre côté de l'excès, quoi.
Frédéric Sigrist.
Mais d'ailleurs, Alexandre le Grand, ensuite, quand il s'est lancé dans cette conquête du monde, a été imprégné de cette culture de l'autre et de l'étranger qu'on n'écrase pas, mais qu'on assimile. Et en fait, la religion grecque s'est enrichie aussi de la culture des autres. Et finalement, quand les Romains ensuite ont pris le pouvoir, eh ben, ils ont récupéré la culture des Grecs et l'ont mis à leur sauce aussi. Mais il y a une forme d'agrégation de culture plutôt qu'un effacement comme on le voit si souvent en ce moment.
Et la question que ça nous pose aujourd'hui, et pour l'avenir de notre civilisation française ou européenne, c'est est-ce qu'on va en être capable ? Ou alors est-ce qu'on va construire des murs pour se protéger de l'autre ? Ben, la question est ouverte.
Jules ?
Oui, et puis par ailleurs, Dionysos, c'est aussi une thématique, effectivement, comme vous le disiez, de tiraillement entre l'excès et la démesure, et du coup, par exemple, le personnage qu'on met en scène, nous, de Dionysos, lui, il est emmerdé parce qu'il tient un bar PMU, comme ça, dans le quartier de Hadès Rochechouart, et Dionysos, il est obligé de mettre toutes ses amphores, il est obligé d'adopter les amphores neutres qui ont été obligatoirement adoptées par Bruxelles, et du coup, l'excès du vin, l'excès de cette folie-là dionysiaque est complètement, je dirais, corseté, normé par une société qui ne donne pas la place à cette grande folie grecque.
Et d'ailleurs, en tant que dieu du vin, et c'est aussi le dieu du théâtre. Ouais. Et ce qui est étrange, c'est qu'encore aujourd'hui, en France, il y a énormément de festivals d'humour un peu partout en France, mais qui se passent surtout dans des grosses régions viticoles. Comme si, en fait, c'était quelque chose de complètement assimilé, théâtre, vin.
Et puis, ouais, c'est marrant, ça. Et vous savez, en grec, comment on dit une personne, enfin un individu, persona, et ça veut dire le masque. Théâtre. Et en fait, on a oublié ça, que notre identité, elle est multiple, et que nous ne pouvons apparaître sur la scène sociale qu'au travers différents masques successifs.
Alors, il y a une divinité grecque très présente dans nos vies quotidiennes, bah, c'est Narcisse, Charles Pépin.
Oui, alors là, je dois avouer que j'ai eu un petit choc en voyant le dessin de Jules, parce qu'il faut quand même qu'on vous explique que c'est Jules qui dessine d'abord, et moi, avec mes textes, quelque part, j'illustre philosophiquement son dessin. Donc c'est l'inverse du processus habituel. Et donc Narcisse, il est tellement fasciné par son image qu'il se retrouve prisonnier en fond d'écran de son ordinateur. Un peu adaptation par
Jules. À force de faire des selfies, comme s'il fait tellement de selfies qu'il est puni, transformé en fond d'écran.
Mais alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Il y a quelque chose de très intéressant, que ce qui est dramatique et morbide, c'est pas l'amour de soi. L'amour de soi, c'est bien, et je vous invite à vous aimer plus qu'à vous détester. Mais il faut distinguer l'amour de soi de la fascination idolâtre pour son image. Parce que l'image, c'est pas moi. L'image, c'est plus réducteur. L'image, c'est plus figé. L'image, il y en a plus sur Instagram que dans la vraie vie. Eh bien, ce qui nous est donné à penser, là, c'est une invitation à nous méfier de cette fascination pour une image qui nous réduit et nous fige.
Et je rappelle qu'à la naissance de Narcisse, le devin aveugle Tirésias prédit à la mère de Narcisse qu'il vivra vieux à la seule condition de ne jamais se voir. Achille, ça permet de comprendre que nous avons tous une fragilité héritée de notre enfance, de notre histoire, de nos gènes.
Bien sûr, et que peut-être cette fragilité fait notre force dans la mesure où nous savons accepter combien elle nous singularise. Et vous savez, si on réfléchit, et c'est ce qu'on dit dans 50 nuances de Grey, ça c'est un thème assez récurrent, c'est qu'en fait on est peut-être plus singularisé par ses fragilités que par ses forces. Et au fond, la fragilité, dès lors qu'on est capable d'y consentir, devient une force. Et finalement, c'est ce qui se passe avec ce talon d'Achille, même si Jules a fait un talon Louboutin, ça c'est notre histoire. Bonjour Marie-Dominique Poré.
Bonjour.
Vous êtes agrégé de grammaire, professeur de grec et de latin. Vous publiez chez First « Être né de la cuisse de Jupiter ». Alors, beaucoup d'expressions de notre langue française évoquent la mythologie gréco-latine, comme évidemment le talon d'Achille.
Oui. Alors le talon d'Achille, forcément, tout le monde connaît cette histoire, c'est que Achille, il a un petit point faible, comme on dirait le défaut de la cuirasse. C'est-à-dire qu'effectivement, il a été pour sa mère, pour le protéger et le rendre plus fort, l'a trempé dans une rivière. Et le problème, c'est qu'elle a oublié de tremper son talon. Et donc, c'est ce petit point faible qui va le suivre toute sa vie.
Alors, être médusé, par exemple, on oublie souvent que ça vient de la mythologie.
Oui, tout à fait, parce que les méduses, c'était des divinités qui faisaient peur, qui étaient horribles, qui avaient même horrifié leur mère, et elles avaient l'une d'entre elles s'appelle Méduse, c'est pourquoi on les a toutes appelées les méduses, et cette méduse, elle avait le don de pétrifier les personnes qui l'environnaient, donc elle faisait peur à tout le monde, et c'est Persée qui a été chargé d'aller prendre son scalp, si je puis dire, pour essayer effectivement de se débarrasser d'elle, et on peut se demander du reste, si on ne trouve pas encore sur nos plages des espèces de descendantes de ces méduses d'antan, peut-être.
Et jouer les Cassandres.
Alors jouer les Cassandres, c'est faire des prédictions. En fait, Cassandre était poursuivie par Dieu, qui lui avait donné un don de prophétie, mais comme elle a refusé ses avances, et ben Jupiter, Zeus a décidé en fait de faire en sorte qu'à chaque fois qu'elle allait ensuite faire des prédictions, personne ne la croirait. Et alors entre autres, elle a prédit la guerre de Troie, mais malheureusement, personne n'a écouté ses prédictions. Voilà.
Merci beaucoup Marie-Dominique Poré. Être née de la cuisse de Jupiter, eh bien c'est publié chez First. Pour terminer, allez, votre divinité grecque préférée, celle qui vous parle le plus, allez, Frédéric Sigrist.
Hermès. Parce que c'est à la fois le dieu des voleurs, mais aussi le dieu des commerçants. Et je trouve que les Grecs avaient déjà bien compris comment fonctionnait le commerce. Et je pense que c'est Hermès qui a inventé les petites clauses en bas des contrats qu'on ne lit pas et on devrait.
Jules.
Alors moi, je prendrais un personnage plutôt, je dirais, historique, une mortelle. Moi, j'aime bien Pénélope, en fait. Parce que Pénélope, parce qu'elle a réussi quand même à bosser pendant 40 ans à faire une tapisserie dont elle ne peut pas montrer aucune preuve aux inspecteurs. Elle était à sa blessure Sparte pendant que son mari était en train de faire je sais pas quoi un peu plus loin. Et je pense qu'elle a bien du mérite, la pauvre Pénélope.
Mais, et à titre plus personnel, est-ce qu'il y a une divinité grecque qui vous parle?
Alors ensuite, mon modèle, c'est sans doute, on en parlait, Dédale, cette espèce de grand génie. Moi, je suis un fan de Gaston Lagaffe. Donc pour moi, Dédale, c'est Gaston Lagaffe en toge. Hein.
Charles Pétain. D'autant que Dédale était aussi dessinateur.
Oui.
Alors moi, je suis très sensible à la figure d'Ulysse parce que d'un côté, il a cette curiosité que moi, j'aime aussi beaucoup. Il ne peut pas s'empêcher d'aller voir ailleurs, quoi. C'est toute partie en nous qui veut voyager, qui veut découvrir l'autre et la part d'Ulysse. Et en même temps, il se connaît assez pour se méfier de lui-même. Vous savez, quand il demande à ses compagnons de voyage de l'attacher au mât, parce qu'il sait qu'il ne pourra pas résister au charme des sirènes. Et ce qui me parle, c'est cette idée de sagesse progressive. C'est-à-dire, je suis double, je sais que j'ai envie d'aller, je suis curieux, mais qu'il faut que je me méfie de moi-même. Et ça, c'est une leçon de vie vraiment très actuelle.
Si vous savez le d'ailleurs, nombre de fois où j'ai dû attacher Charles Pépin au mât.
Léonard, notre stagiaire de troisième, est-ce qu'on t'a un peu plus intéressé à la mythologie grecque ce matin?
Oui. Totalement.
Merci. Merci beaucoup, Jules et Charles Pépin. 50 nuances de grec, encyclopédie des mythes et des mythologies. C'est publié chez Dargo. Merci, Frédéric Sigrist, d'être passé. Votre prochain spectacle, se joue où?
Au théâtre Le Funambule, dans le 18e arrondissement de Paris, à partir du mois de février.
Merci beaucoup, tout de suite, Éric Libiot de L'Express et sa petite mythologie d'un objet du quotidien. Éric Libiot, rédacteur en chef à L'Express. Alors, quoi de neuf dans votre petite mythologie d'un objet du quotidien?
Eh bien, je voudrais d'abord revenir sur le livre de Jules et de Charles Pépin, parce qu'il a évidemment, j'imagine, fallu faire des choix. Il y a quand même du lourd dans l'Olympe, et il était difficile de parler de tout le monde. Je ne sais d'ailleurs pas s'il y a eu débat pour décider de la présence de l'une ou de l'un, et quels arguments ont pesé dans la balance. Mais il y en a une dont vous ne parlez pas, ou très peu, c'est Thémis. Thémis, c'est la fille d'Ouranos et de Gaïa, seconde épouse de Zeus, ce qui est quand même pas rien. Thémis, c'est la déesse de la justice, et avec elle s'invente la balance, qui pèse le pour et le contre, mais aussi les pommes de terre et l'entrecôte, dans un grand mariage œcuménique entre l'intelligence du débat et la trivialité du garde-manger. Ce qui confère à la balance un destin mythique et une actualité brûlante en cette période de fêtes et de gavages en tout genre. Alors, la balance de la justice, c'est bien, c'est beau, elle permet de marcher droit et de prendre de la hauteur sans trébucher, quand la balance de la salle de bain, elle, est là pour nous rappeler notre condition d'être humain. Car si le poids des ans se fait sentir, le poids du corps également, surtout au moment où l'on s'apprête à ne jamais quitter la table en ces périodes de fêtes, parler de la balance, à quelques jours des fêtes de Noël, c'est aussi comprendre qu'on regarde les objets différemment selon l'époque, peser ou ne pas peser pendant les fêtes, là est la question. Alors d'abord, je voudrais dénoncer une injustice. Certains sont capables d'avaler un foie gras entier ou du poulet à la crapaudine sans prendre un gramme, quand d'autres prennent 2 kilos rien qu'en regardant l'emballage. Je suis malheureusement plutôt dans la seconde catégorie.
Bienvenue au club.
Je ne trouve pas normal qu'il y ait 2 poids, 2 mesures, car il fut un temps de bonheur où la balance à la louche, avec sa petite aiguille tremblotante défilant sur les chiffres, indiquait un poids compris entre 56 kilos et 72, ce qui permettait de réaliser qu'on en faisait en fait 65, alors que pas forcément, mais on s'en contentait sans plus de précision. C'était décomplexant, déculpabilisant, et le seul critère valable d'une prise de poids éventuelle était la taille du pantalon, qui, c'est bien connu, rétrécit à vue d'œil à cause de la machine à laver mal réglée. Et aujourd'hui, les avancées technologiques font que la balance indique tout au gramme près. Alors, quand je dis au gramme près, je suis très loin de la vérité, parce que la balance, ai-je appris, la plus perfectionnée du monde, mesure le yoctogramme. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le yoctogramme.
Non.
Le yoctogramme, c'est 10 puissance moins 27 kilos. En fait, c'est le poids qu'on prend au moment où on envisage éventuellement d'aller faire des courses. C'est-à-dire, tiens, il faudrait que j'achète une pomme, vlan, un yoctogramme en plus. Aujourd'hui, la balance parlante, parce que oui, elle parle, c'est un peu le GPS du corps. Là, pour vous indiquer si vous avez perdu des kilos en chemin ou pas. Être pour ou contre la balance, moi, mon cœur balance. Alors oui, bien sûr, quand il s'agit de combattre l'obésité, non. Lorsqu'il est question de dessiner une société hygiéniste, où chaque gramme perdu nourrit la névrose du corps trop maigre, il faut savoir utiliser la balance avec modération et la plier à nos désirs avant qu'elle ne devienne l'objet de nos fantasmes et nous ordonne la marche à suivre, surtout en cette période de fête où il n'est pas forcément mauvais de marier le plaisir de l'excès à l'excès de plaisir. Ce matin, c'était la chronique « On se pèsera l'année prochaine », hashtag « Balance ta balance ». On a les petites mythologies qu'on mérite, mais on vit une époque formidable.
La petite mythologie d'un objet du quotidien, c'est tous les vendredis avec Éric Libiot de l'Express à la technique ce matin. Célim Guéribi et Élise Christophe, merci aux standardistes de France Inter, merci à la documentation de Radio France, merci à Muriel Pérez pour la programmation musicale. Et puis j'aimerais remercier chaleureusement Éric Lenné qui a réalisé cette émission pendant 4 mois. Un garçon talentueux, humain, très marrant. Nicolas Demorand m'avait dit que c'était un garçon exceptionnel et il avait bien raison. Je lui souhaite bon vent dans ses nouvelles fonctions au sein de la direction de France Inter. Tes formidables imitations de Charles Aznavour et de Jacques Chirac vont terriblement nous manquer. Au bureau, lundi, vous retrouverez Julia Foyce aux commandes de Grand Bien Vous Fasse. Je vous retrouve le 1er janvier. Et d'ailleurs, en janvier, nous accueillerons un tout nouveau chroniqueur, Thierry Lhermitte, qui interviendra une fois par mois au nom de la Fondation pour la recherche.